Nous allons donc, bonjour ou plutôt bon après-midi, merci d'être là, si nombreux, un peu. Très bien, ça nous va très bien. Alors, c'est en 2022 que, chagrinés et abattus par le Covid, nous avons créé, pour notre plaisir et celui d'éventuels écouteurs, ce duo de liseuses, Nat, c'est elle, et Jeanne, Nat et Jeanne Piloupi. Bon, au sein de la compagnie théâtrale Hippotengo. Alors aujourd'hui, en 2024, nous avons décidé de relire les textes de notre première intervention, des textes qui évoquent la vieillesse. Évidemment, sans aller comme l'illustre Cicéron, sans aller jusqu'à faire l'éloge de la vieillesse, nous avons voulu évoquer cette période de la vie avec un certain humour, si possible, et une bonne dose d'autodérision. C'est ce que font les deux auteurs que nous avons choisi de lire. Tout d'abord, deux courts extraits de La touche étoile de Benoît de Groult, qui est née en 1920 et décédée en 2016, et qui est l'autrice du célèbre manifeste essai féministe « Ainsi soit-elle ». Féminisme à l'ancienne, il va de soi, hein, ce n'est ni MeToo ni les femelles. Bon, mais enfin, c'était bien quand même. Et alors, deux extraits, et puis nous lirons deux courtes nouvelles sur le même thème, les femmes de la vieillesse, bien sûr. Deux courtes nouvelles extraites du recueil de nouvelles, donc, de Paul Fournel, qui est un auteur maintenant plus jeune, puisqu'il est né en 47, 1947. Et nous, on l'aime bien, on le trouve plutôt drôle, vous jugerez. Alors voici donc un premier texte de La touche étoile. Alice, la narratrice, a 75 ans et travaille, oui encore, comme journaliste dans un magazine féminin qui s'appelle Nous les femmes. C'est Alice qui parle, bien sûr. L'âge est un secret bien gardé. Dire ce qu'est la vieillesse, c'est chercher à décrire la neige à des gens qui vivent sous les tropiques. Si on savait une fois pour toutes qu'on est une vieille peau, je suppose qu'on s'habituerait. Le drame, c'est qu'au début, on oublie. Pendant des années, avec un peu de chance, on va, on vient, et puis un jour, il faudra bien l'admettre, on s'aperçoit qu'on est vieux tout le temps. C'est là vraiment qu'on bascule et qu'il faut tout réapprendre. On n'est pas seulement une vieille peau, ça, on peut toujours tirer dessus. Hein. On est fait aussi de vieux os qui deviennent poreux, d'un vieil estomac qui supporte mal la délicieuse brûlure de l'alcool, d'un vieux cerveau qui cale devant les noms propres, puis les noms communs, de vieilles veines qui se distendent tandis que les artères, elles, se durcissent. Et l'on vit avec un vieil amour sur lequel on observe les mêmes symptômes, ou bien sans amour du tout. Seulement une photo, immuable, dans un cadre d'argent sur sa table de chevet. Moi, je suis coupable, c'est évidemment Alice qui parle, moi je suis coupable d'être septuagénaire. Vous voyez que c'est pas la même chose. La seule septuagénaire de la rédaction. On me tolère, à condition que je ne révèle pas la vérité sur l'âge et n'en manifeste aucun signe gênant. Je joue docilement la comédie du « tout le monde est jeune, tout le monde est gentil ». D'autant plus facilement que dans un magazine féminin, tout, à commencer par la mode et la publicité, contribue à entretenir l'illusion. Et non seulement je n'ai aucune alliée dans mon camp, mais chaque année, un nouvel arrivage de stagiaires fringantes débarque au journal, me repoussant d'autant vers les bas-fonds de la carte vermeille. Quand, par exception, un sujet sur l'âge s'impose, il est recommandé de n'interviewer que les vieux couples qui se prêtent à la mascarade. Nous avons décidé de vieillir en pleine forme, d'acheter des nights pour nos 90 ans et de fêter nos 100 ans à quatre pattes pour la plus grande joie de nos arrière-petits-enfants. Interdit de signaler que si par miracle on parvient encore à se mettre à quatre pattes à 90 ans, mais on y reste, à moins d'appeler les pompiers. L'image des vieillards a été réduite à celle de joyeux drilles, dans les journaux, aux cheveux de neige, pédalant sur les contreforts de l'Himalaya ou gravissant la passerelle de paquebots de luxe. Lui n'est jamais chauve ou bedonnant et arbore le sourire de Gary Cooper. Tandis que sa compagne le regarde amoureusement, jupe courte sur de longues jambes de faon. Sur les publicités, les brochures de voyage pour troisième âge ou la presse pour retraités, les seuls seniors qu'on nous présente rigolent comme des bossus. Sauf qu'ils ne sont jamais bossus. Et depuis qu'Adrien, ça c'est mon mari, approche de l'octogénariat, le bombardement de pubs s'est intensifié et ciblé dans nos boîtes aux lettres. Pas de jour qu'on nous rappelle l'urgence d'utiliser les baumes miraculeux du Siam, du Cambodge, du Tigre et du Pérou. L'existence de sièges ascensionnels, toujours occupés d'ailleurs par des lolitas. Et depuis quelque temps, la promesse d'obtenir, même après 80 ans, un membre énorme et des érections grandioses qui transformeront la plus sage épouse en furie hurlante et assoiffée de votre pénis. Adrien me regarde avec terreur. Moi, assise, j'ai 60 ans. Debout, je me tasse un peu, d'accord. Mais ma démarche reste alerte. Je suis insoupçonnable en terrain plat. C'est en descendant un escalier que je deviens septuagénaire. Je le descends avec ma tête car je ne fais plus confiance en mes jambes. Ces quelques dixièmes de seconde d'hésitation, avant chaque étape d'un mouvement instinctif, qu'il faut désormais décomposer, dénonce l'atteinte irrémédiable. Et chez moi, ce sont les amortisseurs qui ont flanché les premiers. Je n'ai plus que des bouts de bois dans les jambes, sans lubrifiant ni ressort. Le bois est bon, la densimétrie le prouve. L'ennui, c'est que les articulations n'articulent plus. Et comme les pieds ne sont pas des pneus, ben je roule sur les jantes. Et quand la route est pentue, mais je ressemble à ces petits jouets en bois articulés qui descendent d'un plan incliné avec des mouvements saccadés. Mon Dieu, la souplesse. Je n'avais jamais considéré la souplesse comme un bien inestimable. Toutes les priorités se modifient. C'est aussi une découverte que l'on fait, car contrairement à une opinion répandue, la vieillesse, eh bien, c'est l'âge des découvertes. Quand je me présente en haut d'une volée de marche, mes genoux m'interpellent. Et tu ne comptes pas nous faire descendre ça tout de même? ne m'emmerdez pas, hein. Qui c'est qui commande ici ? Il ricane. Rira bien qui rira le dernier. Et j'emboucle la première marche prudemment, alors un peu de biais, avec le genou droit, le meilleur. Je me lâche à tout moment, prévient l'autre, le gauche, qui fait partie du syndicat du genou, un des plus intraitables. De plus en plus souvent, je transige, je descends un peu de profil, une main sur la rampe. Parfois, des missions suprêmes, et encore, je ne l'ai jamais fait en public, je ne négocie qu'une marche à la fois. Pour m'adouer mon personnel et ménager mes troupes. Car à notre horizon à tous, se profile désormais le spectre de la grève générale, avec séquestration de la direction dans la boîte crânienne et paralyse de tous les secteurs d'activité. Plusieurs livres nous avons fait les phares en récit. Pour éviter cette prise d'otage et la destruction de l'outil de travail, il m'a fallu négocier, m'humilier, accepter des compromis, quitte à me transformer peu à peu en Donia Prothèse. L'orthodontiste m'a replanté 2 incisives. L'orthopédiste m'a dessiné des semelles afin de rectifier mon équilibre vertébral. Or, ils sont 34, hein, 34 vertèbres, dont chacune n'a qu'une idée, sortir du rang, entraînant toute la colonne. Prenez son syndicat, là aussi, avec lequel il faut s'allonger avant toute négociation. Enfin, l'orthophoniste m'a fabriqué à prix d'or des corrections auditives et l'ophtalmologiste des lentilles de contact. Il faut, en tout cas, admettre une vérité dérangeante. On est vieux dans le regard des autres, bien avant de l'être dans le sien. Exemple. Bonjour grand-mère, je vous nettoie le pare-brise. Sur la route de Nantes, ce jour-là, au péage, de gentils jeunes gens proposaient leur service aux automobilistes. Pas possible. Alors j'avais l'air d'une grand-mère. À travers un pare-brise douteux, en me regardant à peine quelques secondes, on pouvait décréter que j'étais une grand-mère. Pendant un moment, j'ai été déconcertée. Je pouvais aussi décréter que ce jeune homme était un con et j'ai choisi la deuxième réponse. Et puis bien sûr, il reste le regard de ses proches, de son conjoint, entre autres, dont il faut savoir qu'il est objectivement sans valeur. Adrien m'aime, certes, mais comme un vieil enfant qui a peur de perdre son doudou. Je ne suis guère plus pour lui qu'un objet transitionnel, comme disent les psys. C'est vital, d'accord, pour lui. Mais que se passerait-il si je faisais encore l'amour avec Adrien ? Il enlèverait ses prothèses dentaires et ne pourrait plus me mordre. J'enlèverais mes prothèses auditives et je ne pourrais plus entendre ses mots d'amour. Parce que si on les garde, ça siffle quand on vous prend la tête entre les mains. Si on les enlève, ben il faut alors crier « Je t'aime !» Comme Yves Montand dictant son télégramme d'amour à la demoiselle des Postes dans un numéro célèbre. Nous pousserions de petits gloussements que l'autre prendrait pour des cris d'extase, alors qu'il traduirait une sciatique, une crampe ou quelques difficultés à faire progresser un outil périmé dans un conduit désaffecté. Moi, quand même, j'ai bien aimé ma vie. Il me reste un regret pourtant. J'ai écrit d'innombrables articles, reportages et textes divers, mais ce genre d'écrit voltige quelque temps dans les mémoires, puis s'envole, comme des papillons ou des feuilles mortes. Je n'ai pas de livre à mon nom dans ma bibliothèque, et ce vide me chagrine. Je vais donc essayer de le combler. Mais pour ce travail d'un nouveau genre, tout le monde m'affirme qu'il est indispensable de disposer d'un outil nouveau. L'ordinateur. Je me méfie. Il serait plus juste de dire que c'est lui qui va disposer de moi. Mais non, Alice, tu dois. Tu verras, c'est rien du tout. Tu ne pourras plus t'en passer, disent tous mes amis de moins de 60 ans. Maman, si tu ne te mets pas à l'ordinateur maintenant, après, il sera trop tard. Hein. C'est ta dernière chance avant ta retraite. Ça sera formidable pour ton travail, tu verras. Enfin, Alice, tu ne vas pas écrire un livre avec du scotch et des ciseaux comme au Moyen-Âge. Hein. Tous les écrivains en ont un, au moins pour le traitement de texte, m'a dit mon ami Julien, le seul que j'ai mis dans la confidence en dehors de mon mari. Je suis contre, m'a dit Adrien. Tu vas faire entrer Belzébuth dans la maison. Nous n'avons pas été programmés pour ni toi ni moi. Tu vas devenir folle, Alice. De toute façon, Adrien est toujours contre et c'est un motif de plus pour moi de tenir bon. À plus de 70 ans, je n'ai plus toutes mes capacités, c'est évident, mais j'en ai encore beaucoup et pas de temps à perdre. Je m'enquiers donc des meilleurs fournisseurs à Paris, des marques recommandables, des vendeurs les plus compétents. Et je me présente un beau matin dans un magasin imposant d'informatique, boulevard Saint-Michel. Je voudrais un ordinateur portable, s'il vous plaît. C'est essentiellement mon traitement de texte. Donc je cherche un modèle simple et facile à utiliser. Je suis écrivaine. Oui, mais je suis débutante côté ordinateur. Je souris humblement. J'ai déjà eu tort de dire que j'étais écrivaine. Mon compte est bon, une de ces antiquineuses de féministes, et en plus une viole. Se disent les quatre jeunes mecs qui feignent d'être très occupés derrière le comptoir. Attention, hein, je suis dans le temple ici, pas dans une vulgaire boutique. L'un des quatre officiants finit par s'approcher. Quel modèle désirez-vous? Surtout pas de madame, hein. C'est ringard. Quant au fameux sourire commercial, il n'est pas de mise dans un temple. Je suis ici pour être conseiller, justement. Montrez-moi ce que vous avez de plus rudimentaire, dis-je pour le faire sourire. Manquer. J'aggrave mon cas. Être vieille, c'est déjà mal vu. Mais vieille conne, là, ça fait beaucoup. Rien n'est rudimentaire parmi ces joyaux de la technologie qui me narguent du haut de leurs étagères. Le jeune mec m'indique avec désinvolture deux ou trois engins qu'il ne prend même pas la peine de poser sur le comptoir pour que je puisse les examiner. Vous voulez l'écran intégré ou sur socle? Qu'est-ce qui serait le plus pratique pour une vieille école? Je pose quelques questions idiotes à en juger par la réaction du vendeur. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre sur la terre tout de même, se dit-il. Mais au lieu de le snober, je demande le poids de tel ou tel modèle, car je veux pouvoir le transporter chaque été en Bretagne. Et le vendeur se dit qu'en plus d'être vieille et d'être conne, je suis une vieille conne bretonne, limite impotente. Bécassine n'a pas forcément la cote sur le marché informatique. Et pourtant, j'ai courageusement ouvert ma porte à Belzébuth. Je l'ai. Il est posé sur la table, pour lui tout seul, avec son bel écran bleu des mers du Sud, et j'ai en main son mode d'emploi. Just for starters. Jusqu'ici, tout va bien. One. Begin unpacking. Donc, begging, unpacking, commencer le déballage. Ça, je le retrouvais toute seule. Il me prend pour des débiles ou quoi? Tout. Installer la batterie. On dit pile en français, mais pas ça. On peut aussi dire plaque des batteries. Ou si vous préférez, soit batterie. Free. Mettre l'ordinateur sous tension. Encienda la computadora. Oh là là, quelle belle langue. Four. Begging use. Commencer l'utilisation. Et ma notice, en 14 langues, s'arrête là, au bout du gouffre. Démerdez-vous, comme auraient dit les mecs du magasin s'ils avaient osé. Je feuillette tout le monde d'emploi, cherchant en vain un schéma, une photo de clavier, des conseils pour souligner, je sais pas moi, effacer, faire une marge. Rien, rien, en 14 langues. Reste à réduire la bête immonde au silence que quand je l'aurais fait marcher, bien sûr. Je cherche le bouton on-off. Vous plaisantez, c'est pas un grille-pain. Vous êtes dans le monde magique de l'électronique, nique ta mère Mickey. Je m'enfuis, laissant tout mon matériel sous tension, et je pars sangloter dans ce bon vieux téléphone pour appeler mon revendeur. Il est très occupé et passera un de ses jours. J'appelle Marion. Elle est formelle. Je dois m'interdire tout recours à ma chère vieille Hermès. Si tu la remets en service, tu ne retourneras plus jamais à ton ordinateur. Hein. C'est ta dernière chance, maman. Tiens bon. Adrien a été merveilleux. Ça lui fait du bien de me voir démoli. Il s'est montré d'une tendresse et d'une compassion qu'il exprime rarement. Orage, désespoir, vieillesse ennemie. N'ai-je longtemps vécu que pour cette infamie, a-t-il déclamé en me proposant de massacrer mon ordinateur à coups de marteau. Puis, il m'a emmené dans un des meilleurs restaurants de Paris, sachant que le désespoir ne résiste pas à des œufs brouillés aux truffes suivis de filets de sole au Saint-Martin. Et alors c'est tout à fait par hasard, chez le pédicure, que j'apprends 2 jours plus tard qu'on peut se procurer au supermarché Casino un PC fort donné, traduit très judicieusement en français par Manuel pour les nuls. Mon cœur fond dès les premières lignes. Bienvenue dans le monde du PC démystifié. Un livre où l'électronique n'est pas sacralisée, mais enfin expliquée à une personne normale, telle que vous. Nat va vous lire une deuxième aventure de la vieille Alice.
Donc, Alice au pays des vermeils. Nous n'avions jamais fait de croisière, Adrien et moi. Les couples qui se décident pour ce type de voyage sont ceux qui ont épuisé toutes les autres formes. Les safaris africains sont devenus trop fatigants. Le trekking au Népal, dangereux. La descente du Nil, déjà faite à 2 reprises, est impraticable après une entorse. Notre dernier séjour de ski s'est terminé dans le plâtre. Quant aux vacances à Noël au Club Med, elles ne sont plus envisageables, car les petits-enfants ont passé l'âge de s'amuser avec les grands-parents. Donc, dépaysement dès l'embarquement. Sur la passerelle du Mermoz à Saigon, où notre troupe se traîne, épuisée par 15 heures de vol et 4 heures d'attente à Hong Kong puis à Singapour. Chacun des 400 passagers procède à une évaluation sommaire des spécimens qui vont partager son quotidien pendant 12 jours. Le regard des hommes s'allume parfois. à la vue d'une fine silhouette, vue de dos. Et puis de face, c'est un vieux tremblant. Partout des fesses lourdes, des dos voûtés, des jambes de cigogne ou des traverses de chemin de fer. Qui n'est pas gai de notre côté. Sur ce trajet, les hommes sont presque tous des anciens d'Indochine. Nuque raide, cheveux coupés très courts, allure martiale, long short beige sur jambes nerveuses. Ils tiennent tous, moralement, une badine à la main, faute de fusil. On observe une proportion de mutilés très au-dessus de la moyenne nationale. Côté épouse, ici on n'amène pas sa maîtresse. On repère vite celle qui réprouve le bistouri, le silicone ou le botox. Elles sont de loin les plus nombreuses dans ces familles austères de militaires ou d'anciens administrateurs coloniaux. Beaucoup de veuves aussi, visiblement décidées à profiter de leur pension de réversion, bien plus joyeuses à palper que ne l'était leur colonel. Chez les vieux, je m'aperçois que c'est la démarche qui trahit la première. Plus aucun ne marche selon la loi de nature. Il se déplace, certes, mais à l'intérieur, ça couine. Plus rien ne va de soi. Il faut sans cesse s'ajuster au terrain, compenser, tricher, avec l'espoir de tromper son monde. Et puis, soudain, une jeune femme passe, fluide, évidente, et chacun prend conscience qu'il marche comme un jouet mécanique, animé de mouvements sporadiques. En 2 heures, les 400 passagers sont casés dans leurs cabines respectives et assignés aux différents restaurants. Le Mermoz, unité en bout de course, a le même âge que la moyenne de ses passagers. Il est vieillot, mais non son charme. Dès les premiers jours, on nous immerge dans le grouillement asiatique. 3 heures de visite en bus semi-climatisé, puis une visite obligatoire du marché chinois de Cholon, qui ne vend que des légumes chinois. Il fait 30 degrés, et la troupe, à peine remise de son voyage éprouvant, accuse ses premières défections. Un mermozien, comme on nous appelle déjà, s'affaisse en remontant à bord. Il est tout de suite escamoté. C'est mauvais pour le moral des troupes. Dès le lendemain, c'est un médecin militaire en retraite qui tombe raide à l'entrée d'un musée. Il respire encore, mais n'ayant plus de médecin de service, notre guide l'assied sous un palmier et nous poursuivons notre visite en scrutant nos voisins avec suspicion. Chacun rappelle alors qu'il est mortel, ce que nous avions prévu d'oublier pendant ce voyage. Les autocars sont aussi vétustes que nous, et plusieurs dames s'avèrent incapables de gravir les marchepieds disloqués. Il faut 2 personnes pour les prendre sous les bras et les hisser. Tout pose problème pour notre troupe délabrée, et quelques passagers renoncent bientôt à descendre. On traverse la Manne profonde. Je suis frappée du petit nombre d'enfants. Au 3e, plus d'allocation, explique notre guide. En 4e, une femme qui travaille peut perdre son boulot. On voit surtout des garçons dans les rues et sur les cadres des vélos paternels. Il est évident qu'ici, on tue les filles dans l'œuf. Nous évoquons avec mes voisins ce déficit de filles. En Inde comme en Chine, il manquerait 1 million de filles. On dit ça, mais il en reste toujours assez, remarque un vieux mec coiffé d'un casque colonial, de ceux qui ont nié l'existence de l'excision il y a 20 ans.
Pensez-vous, si c'était si horrible que ça, elle ne le ferait pas.
Je comprends qu'Adrien supporte mal cette ambiance. Il a toujours détesté les groupes, les excursions, les pique-niques, les vacances collectives, y compris le club Med. Il n'apprécie que les navigations sur des unités trop exiguës pour contenir plus de 8 personnes, équipage compris. Les femmes, elles, ont forcément un faible pour la croisière, tout service compris. J'apprécie chaque seconde de ma vie ici, y compris l'occasion de râler contre une nourriture que je n'ai pas eu besoin d'acheter ni de cuisiner. De déplorer qu'Adrien boive trop, mais ce n'est pas moi qui démoule les glaçons. Et qu'il sème ses cendres de cigares dans tous les récipients qu'il trouve à sa portée et que d'autres nettoieront. Un jour, quand la démocratie remplacera le communisme, ici, on trouvera des paillotes tout confort sur chaque lot, des canaux pneumatiques équipés de Yamaha derrière chaque vague, des avenots et des fusils sous-marins à ventre dans chaque pizzeria bazar. Les casquettes américaines auront remplacé les beaux chapeaux conniques qu'on osait et sur des vedettes de plastique blanc en forme de bidet, embarqueront des milliers de touristes avides de pêches miraculeuses qui dureront quelques dizaines d'années, le temps de ravager les fonds, comme vous savez que nous savons le faire, ça. Un jour, quand la science aura terrassé la vieillesse, des non-ingénaires en bikini gambaderont sur ces plages, caressant au passage les plus beaux centenaires aux cheveux fous sur les épaules, qui les entraîneront dans leur cabine de bain pour y faire l'amour debout, comme avec temps. Et le soir, ils feuilleteront incrédules sur la terrasse des hôtels conditionnés de vieux magazines du XXe siècle ou de pauvres mecs au crâne dégarni et aux slips désaffectés ou l'inverse, équipés de stimulateurs cardiaques et de contours d'oreilles numériques recommandés par Robert Rossin. Qui c'est celui-là, se demanderont-ils, se livre laborieusement à des gesticulations incoordonnées qui rappellent vaguement la marche.
Maintenant, les deux nouvelles de Paul Fournel. Moi, Sam, je lirai la décision et puis Nat lira la cuisinière. La décision. Elle avait décidé que lorsque la pointe de ses seins tomberait plus bas que la pliure de ses coudes, la vie ne vaudrait plus la peine d'être vécue. Elle avait décidé que jamais son ventre ne devrait faire plus de 2 plis lorsqu'elle était assise sur le bord de son lit devant la glace. Elle avait depuis longtemps tracé une ligne imaginaire sur ses cuisses, au-delà de laquelle ses fesses ne devraient pas descendre. Il y avait aussi une qualité de peau d'orange qu'elle ne tolérait pas, enfin, une forme de petite enflure au-dessus du genou également. Elle savait, pour avoir obsessionnellement étudié la question, que tout cela n'était passible d'aucun régime, d'aucune crème, d'aucun diurétique, d'aucun sauna, d'aucun coupe-faim, d'aucun biscuit repas au son, d'aucun gant de crâne. Elle savait que c'était l'âge, et l'âge était une maladie dont elle ne devait pas se remettre. Elle avait lutté si fort, c'était tant et tant battu contre elle-même à chaque repas, à chaque sortie, à chaque envie, qu'elle ne supporterait pas ces déchéances-là. Elle ne tolérerait pas son ventre flasque, ses joues creuses, ses mollesses. C'était un désaveu qu'elle n'accepterait pas de son corps après les soins qu'elle avait eus pour lui, après autant de grillades haricots verts, après autant d'œufs durs crudités, après autant de radis sans beurre. Lorsque le matin arriva, ou au terme d'une inspection soignée, elle dut constater que l'inacceptable était advenu, elle décida, assise nue sur le bord de son lit, les épaules basses, le dos arrondi et le ventre sorti, de se suicider. Elle opta pour l'empoisonnement pur et simple et choisit sans hésiter le poison. Le soir même, elle mangeait 3 babas, 2 éclairs, 1 tartelette et elle buvait 1/2 bouteille de champagne.
Une larme bascula par-dessus sa paupière, se fria un passage dans le dédale de ses rides et tomba dans la poêle. Elle se roula instantanément en une minuscule boule frissonnante et disparut. Une autre larme, puis une autre. Sous la poêle, le feu sifflait fort. La cuisinière regardait de ses yeux embués sa main déformée par les rhumatismes qui avait tant de peine à saisir le manche de la poêle. Les 2 endives qu'elle avait posées, sans même les avoir levées près de la cuisinière, et la plaquette de beurre. Ses yeux revenaient à sa main, retournaient aux endives, à l'huile au beurre, comme traquée, et elle pleurait. Mélanie pleurait pour la seule chose au monde qui méritait de la faire pleurer. Elle pleurait parce qu'elle ne savait plus comment en cuiser les endives. Sa vie entière avait été placée sous le signe fatal de la dialectique du morceau de pain et du bout de fromage. Ce bout de fromage que l'on prend pour finir son morceau de pain, et ce morceau de pain que l'on coupe parce que le bout de fromage était trop gros. Elle avait vécu pour manger. Et pour gagner sa vie, elle avait cuisiné. Au temps de sa splendeur, personne dans le village n'aurait osé contester ses compétences culinaires. Elle était la seule à pouvoir hausser les épaules en goûtant une pâte à choux de pâtissier, la seule à pouvoir glousser en regardant simplement une galantine dans la devanture du charcutier. Sa longue pratique des cuisines, elle avait cuisiné longtemps pour les gens de la grande maison, du temps où on y menait grand train, lui avait donné des manières autoritaires. Et elle ne supportait ni la critique, ni le doute, ni l'erreur, ni les petites tricheries qui sont le quotidien des cuistots de seconde zone, ou des chefaillons soucieux de rentabilité. Sa seule oreille lui permettait de hurler en traversant la place à la maigre madame Wasserman d'aller baisser la flamme de son camping-gaz sous son beurre qui allait noircir. Son seul nez lui en disait assez sur les effluves du soupirail de la pâtisserie pour qu'elle puisse crier à tue-tête à l'heure de la sortie de la messe « Albert, tu forces sur la margarine !» Et elle se retrouvait chez elle, devant cette misérable cuisinière à butane, incapable de décider comment elle allait faire cuire ses 2 endives. Elle, qui avait cuit tant de ragoûts, de civets, de daubes, de bourguignons, de quenelle, de pâté. Ce sont ses mains qui l'avaient d'abord lâchée. Le rhumatisme déformant s'y était mis et ses doigts s'étaient boudinés, tordus. Ses articulations avaient gonflé. À quoi servait une main qui ne pouvait plus d'un seul geste retourner 1,5 livre de pommes de terre dans une sauteuse? À quoi bon des doigts quand ils étaient incapables de guider la lame du couteau pour émincer les oignons? Sans compter les douleurs, sans compter le temps perdu à mal faire à petits gestes ce qu'on faisait autrefois en un tournement. Mélanie avait quitté les fourneaux avant que les fourneaux ne la quittent. Et seule, chez elle, elle passait ses journées à sentir ses mains se durcir. Ce qu'elle n'avait pas senti par contre, mais qui s'était aussi sûrement produit, c'est que, loin de son travail et de ses responsabilités, au fur et à mesure que ses mains durcissaient, son cerveau se ramollissait. Et c'est pour cela qu'elle se retrouvait, à 75 ans à peine, devant ces deux endives terreuses, comme une poule devant un couteau. Une nouvelle larme tomba dans la poêle surchauffée. Elle en savait pourtant des secrets. Elle n'avait pas sa pareille pour réutiliser un lait tourné dans une pâte à crêpes ou pour soulever un lard rance dans une eau tiède au bicarbonate. Elle savait que les laitances des poissons, dont le nom commence par un B, ne sont pas consommables, que les tiges de persil sont plus parfumées que les feuilles, que la salade de pommes de terre s'assaisonne lorsqu'elles sont encore chaudes et que pour en faire un régal, il suffit d'ajouter du vin blanc à la classique vinaigrette. Elle se décida brutalement à couper un morceau de beurre dans la poêle. Le geste qu'elle fit avec son couteau à bourron lui arracha une grimace de douleur. Elle avait maigri presque immédiatement après sa retraite. Elle flottait dans ses tabliers. Elle, qui avait eu une passion sans borne pour les fromages, ne les reconnaissait aujourd'hui qu'avec peine. Elle avait surtout aimé les roqueforts, les bleus d'Auvergne et les fourmes, auxquelles elle attribuait en rôtant des vertus digestives. Elle s'entaillait, à la fin de chaque repas, des portions phénoménales, émiettant ceux qui ne trouvaient pas grâce à son palais dans ses ragoûts et dans ses sauces, pétrissant ses rogatons dans le vin de Mâcon et le marc de Bourgogne pour en faire des boulettes à frire ou confectionner d'avance son stock de fromage fort. Le beurre moussait dans la poêle. Autrefois, elle y aurait jeté ses oignons et son échalote pour les faire blondir. Ses endives auraient été lavées et pointées, avec le cœur taillé en cône pour éviter l'amertume. Elle les aurait mises à briser, tout simplement, en tenant prêt son jus de citron, pour relever le goût de sa persillade. Le beurre noircissait dans la poêle. À quoi servait cette vie du fauteuil à la table? Cette vie sans envie, sans fringale, sans cette lourdeur d'estomac qu'un nouveau bon dîner efface? À quoi bon une existence sans le bruit des casseroles sur les fourneaux? À quoi bon manger? Et que mangeait-on vraiment après tout? Ses yeux effarés allaient de sa main difforme aux endives, des endives à la poêle, où le beurre finissait de se décomposer. À quoi bon une vie sans ses deux mains et sans toute sa tête? Puisqu'il était déjà trop tard, que le beurre était cuit et recuit, il fallait se décider absolument à faire quelque chose. Ses yeux effarés firent un ultime va-et-vient et elle posa sa main dans la poêle brûlante.
Je reste, je dis que c'est un peu drôle, mais plus je l'entends.